Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Allez, on va passer tout de suite au mode. Justement, si on parle d'Hermès, on va passer au mode de la semaine, le pouvoir d'achat. Alors, 2024 pourrait être... je vais me tourner vers les économistes tout à l'heure, l'année du pouvoir d'achat dans les pays développés. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des salaires qui vont continuer à progresser, une inflation qui va ralentir, et donc on a des chances d'avoir des salaires qui vont plus progresser que l'inflation. Surtout qu'aux États-Unis, pour l'instant, l'emploi reste très tendu, les salaires continuent à progresser. En France, on a vu que sur l'emploi des cadres, ça se calmait un peu, mais le chômage ne recule toujours pas, les salaires continuent à augmenter. Est-ce que, Emmanuel, le pouvoir d'achat va continuer à progresser, ce qui veut dire qu'il va tirer la consommation des ménages, ce qui veut dire qu'il va tirer la croissance de pays comme la France ou les États-Unis?
Après, tous les pays ne sont pas dans le même cas de figure.
Prenons États-Unis et France, c'est intéressant.
Alors, la France, effectivement, on voit que, comme on s'y attendait, hein, y a un effet de ciseau favorable entre une inflation qui ralentit et un pouvoir d'achat qui augmente. Et grosso modo, on va gagner au premier semestre l'équivalent de ce qu'on avait perdu au premier semestre 2023. Donc forcément, ça va avoir un impact sur la consommation. Après... là où on peut se dire que c'est pas forcément une super nouvelle pour l'économie française, c'est qu'on retrouve l'économie française telle qu'on l'aimait pas trop finalement dans les années 2000-2010, c'est-à-dire cette économie qui est essentiellement basée sur la consommation. Parce que quand vous regardez ce que nous dit l'INSEE, par exemple, qui vient de réviser ses prévisions pour le premier semestre, l'INSEE nous dit, bah oui, c'est la consommation qui va tirer, mais par contre, l'investissement, ça va pas être terrible. Et donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'une France qui consomme peut-être un peu moins, mais qui investit un peu plus.
Surtout que la consommation, elle tire les importations, hein.
Oui, en plus, et c'est en partie une des raisons pour lesquelles on a des si mauvais résultats sur le déficit commercial. Je rappelle quand même que les chiffres qu'on a eu cette semaine, la France est quasiment le seul des grands pays européens à avoir un déficit commercial. Et puis aux États-Unis, on n'est pas tout à fait dans la même configuration où là, effectivement, le soutien de la consommation est plus intéressant en matière d'équilibre des moteurs de la croissance.
Vous avez été surpris, Patrice, par la résilience de l'économie américaine grâce à la consommation des ménages, qui est le moteur finalement de la croissance mondiale en 2023 et encore en début 2024. Hein.
Oui, on est presque paradoxalement dans une situation dans laquelle quand ça va pas bien, on consomme, et quand ça va bien, on consomme,
ah oui,
et on consomme même encore un peu plus. Donc effectivement, mais vous l'avez révélé dans l'introduction, c'est-à-dire c'est l'image de création d'emplois. Alors même si celles-ci ont été extraordinairement fortes donc au mois de janvier, on va ralentir un petit peu, mais de toute façon...
Est-ce qu'on va ralentir?
Oui, on va
ralentir.
Parce que
ça fait un an qu'on dit qu'on va ralentir, on ralentit pas du tout.
Sur la consommation, on avait déjà ralenti.
Oui.
Il y a eu des hauts et des bas. Là, il y a eu deux trimestres de hauts, pardon. Et sur l'emploi également. Parce qu'en fait, quand vous regardez les composantes de l'emploi, l'accélération s'est faite notamment dans les services professionnels aux entreprises. Et là, c'est une donnée intéressante parce que ça veut dire qu'il y a une demande des entreprises. Et je rebondis sur ce que disait Emmanuel avec la faiblesse de l'investissement. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est pas uniquement de la consommation. La consommation vient de création d'emplois dans des secteurs qui sont liés aux entreprises. Donc là, c'est pas uniquement les services, les loisirs, enfin les services, les loisirs, l'éducation, la santé, comme on a eu dans la période Covid. Et il y a aussi le secteur manufacturier qui est réembauché. Donc effectivement, on a des créations d'emplois qui vont perdurer, même s'il y a des hausses de taux de chômage avant rester relativement faibles. On a déjà eu, pour faire un parallèle aussi en Europe, mais l'emploi est un élément tracteur. Une fiscalité, là il faut en parler, et là aussi pour les pays européens, une fiscalité qui reste pour l'instant plutôt favorable. Aux États-Unis, on discute encore une loi. Alors sur des réductions qui étaient en place, des avantages pardon qui étaient en place, qui avaient été levés, mais qui vont être réinstaurés en faveur en fait de. On donne une subvention en quelque sorte aux ménages qui ont des bas revenus, qui ont des enfants. Et il va y avoir un effet rétroactif. Donc grosso modo,
donc,
c'est un cadeau.
Un boost.
C'est un cadeau pré-électoral, ouais. C'est évident. Et puis effectivement, on a un taux d'intérêt qui est un petit petit peu dissuasive. Donc aux États-Unis, c'est élevé, ça a ralenti, et l'immobilier est en train de repartir. Ouais. Donc vous avez
aux États-Unis, hein,
aux États-Unis, pas en Europe. Ouais. Donc vous avez un effet d'emploi, un effet pouvoir d'achat, un effet fiscal et un effet richesse.
Et vous, Pierre, vous me disiez avant l'émission, il y a en plus un effet taux d'intérêt, c'était intéressant.
Oui, ben déjà l'inflation là devrait tomber à 2,5% en France. Les salaires vont monter à 4% en 2024. Donc là, on est sur vraiment... Et en plus, je veux dire, ce qui n'est pas capté dans ces chiffres que je viens de donner, c'est le fait que quand on a 100 000 euros d'épargne placés sur à 3 ou 4%, ben ça fait des revenus un peu chaque année, comme ça, quelques milliers d'euros. Et avec ça, on peut aussi aller faire un week-end, acheter une télévision.
Donc vous intégrez ça, vous, dans une réflexion. C'est bien, ça, en économie, d'intégrer les revenus des placements
Alors les travaux qui ont été publiés récemment montrent par exemple en France cette psychologie de l'épargnant français qui gagne ses petits sous finalement ouais. 3-4% comme ça. Je dis voilà, c'est pas considéré comme de l'argent qu'on peut dépenser.
D'accord.
En fait, il y a deux mauvaises nouvelles sur la façon dont on calcule le pouvoir d'achat, c'est effectivement ces revenus financiers qui expliquent en partie l'augmentation du pouvoir d'achat, mais qui en réalité, quand on regarde le comportement de l'épargnant français, ne sont pas intégrés comme du pouvoir d'achat supplémentaire, et donc ils n'y touchent pas trop,
okay.
À la différence de ce qu'a expliqué Patrice sur effectivement l'effet de richesse qui
bien
joue
sûr.
À plein aux États-Unis, où là vous avez un lien vraiment assez net,
surtout
entre,
avec la bourse,
ce sentiment de richesse et la consommation. Et puis la deuxième mauvaise nouvelle qui fait qu'on surestime peut-être les gains de pouvoir d'achat en France, c'est un peu technique, mais c'est tout ce qui concerne vous savez, le calcul des loyers fictifs que touchent les propriétaires. Et là, c'est un calcul qui est en hausse, mais de facto, c'est de l'argent qui ne rentre pas vraiment dans les poches des propriétaires. Donc, ça, c'est de la cuisine statistique, mais tout ça pour dire qu'on surestime peut-être les gains de pouvoir d'achat en France en plus.
Marisol, ils ne veulent pas vous laisser parler.
Non, juste un petit point. On note, effectivement, il y a un autre élément. On a décrit, effectivement, le panorama des variables économiques traditionnelles. Il y a un autre élément qui est essentiel, c'est la confiance. Alors, les indices de confiance des consommateurs en Europe sont très bas. Ils sont en train de rebondir, de se reconstruire. Mais par contre, ce que je note, c'est que même quand il y a une amélioration grâce au pouvoir d'achat, les notations, tout ce qui est les questions qui sont liées à l'épargne et à la préférence pour l'épargne, eh bien, ça reste à des niveaux élevés. Donc, ils bénéficient effectivement d'un pouvoir d'achat supplémentaire, mais visiblement en Europe.
Pas aux États-Unis.
Alors, aux États-Unis, en fait...
Ah non, aux États-Unis, l'endettement explose des ménages.
Aux États-Unis, c'est moins un problème.
L'épargne baisse.
Oui.
C'est-à-dire que c'est dingue, quoi. Eux, mais je reprends ce que vous dites parce que c'est passionnant. Eux, quand ils ont confiance, ils dilapident leur épargne, ils empruntent.
Le matelas qui s'était constitué pendant le Covid,
il a complètement disparu. Ils empruntent.
Il a été utilisé. Alors justement, ce qui est ça qui est intéressant dans la réforme discutée au Congrès, c'est qu'on va redonner du pouvoir d'achat aux catégories de revenus les plus faibles. Donc là, le problème peut-être en Europe du retard à l'allumage qu'on risque d'avoir malgré l'amélioration du pouvoir d'achat serait en fait d'une confiance qui reste encore tournée plus vers l'épargne que vers la consommation.
Donc un manque de confiance,
une confiance pas suffisamment établie.
Marisol ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrice vient de dire. Le problème clé, c'est un problème de confiance lié à une insuffisance de croissance économique en Europe. Quand on voit les chiffres, ils sont très parlants. Hein. On termine l'année aux États-Unis avec une croissance de 2,4% du produit intérieur brut, alors que la zone euro stagne à 0,5%. Comment voulez-vous être très confiant dans ce cadre-là? Donc voilà, il y aura un petit rattrapage du pouvoir d'achat cette année, mais c'est juste la compensation, comme le disait Emmanuel, de l'année 2022 où le pouvoir d'achat avait été très amputé. Donc au global, sur 3 ans, je ne suis pas sûre qu'on ait gagné du pouvoir d'achat.
En France, le pouvoir d'achat n'a pas été amputé. Je parle sous votre contrôle, Emmanuel Le Chip.
Ah si, en 2022, il a été amputé.
Non.
Mais effectivement, il y a quand même eu beaucoup
d'aides, beaucoup de boucliers tarifaires.
Les prix de Macron.
En dehors des aides.
Ah bah oui, mais on est obligé de les prendre. Oui, mais on est obligé de prendre les aides. On peut pas dire
en dehors des aides. L'inflation a tourné en 2022 autour de 9% et les salaires ont augmenté de 5%.
Mais 9%, c'était théorique. Parce que derrière, quand vous avez un bouclier tarifaire, c'est clair que vous n'avez pas 9%.